Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
L'armée malienne à la reconquête de l'intégrité territoriale, on en parle dans ce grand dialogue. Les forces armées maliennes ont annoncé samedi dernier avoir repris le contrôle total d'un fils de la région de Kidal. Une situation intervenue après quelques jours de combat, selon le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et de relations publiques des armées d'IRPA. Les forces armées, l'objectif vise à rétablir l'autorité de l'État et de mettre un terme aux activités dangereuses de groupes armés terroristes. Quelle analyse de l'avancée des forces armées maliennes vers Kidal? À quoi faut-il s'attendre? Studio Tamani pose donc le débat avec trois invités. Mohamed Abdullahi El Khali, la spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Docteur Ngolo Adjara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Et Assim Dabo, enseignant-chercheur et analyste politique. À la présentation, je suis Imran Akilo Maïga, invité auditeur, téléspectateur. Vous connaissez sur 3 télévisions et 85 radios sur l'ensemble du territoire national. Merci de nous avoir suivis et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Mohamed, que sait-on de l'avancée de l'armée malienne vers Kidal?
Alors, bonsoir à tout le monde et bonsoir à mon frère Monsieur Ngolo Diala et à mon frère Dabo. Oui. Et merci pour l'invitation. Et vous savez que depuis celui qui est un peu vigilant quand nous écoutons et nous essayons un peu d'analyser les discours du président de la transition la nuit du 22 septembre, nous avons compris qu'il y a cette tentative est déjà en cours et que l'armée a déjà pris le chemin de la reconquête du territoire national, qui est d'ailleurs une des missions de la transition. L'une des premières missions qu'on pouvait allouer à cette transition, c'est d'abord d'aller à la reconquête des régions du nord du Mali. Et donc aujourd'hui, nous sommes fiers et nous sommes très contents d'apprendre que l'armée malienne est à Nefis. Et je pense qu'encore, le chemin continue vers Kidal et je pense qu'on va reconquérir Kidal bientôt.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors du passage de l'armée malienne de Gao vers Nefis?
Alors, vous savez bien, avant d'arriver vers Nefis, il y a eu d'abord le camp d'Ember. Vous savez, dans l'accord d'Alger, c'est clair et dedans, et après le départ de l'aménagement, c'est l'armée malienne qui devrait, en réalité, dans le but même de reconquérir son territoire national, devrait réoccuper ces camps qui appartiennent à l'État malien, en fait. Et donc, en partant occuper ce camp de Ber, qui est un camp stratégique, parce que qui est sur deux voies, la voie qui mène à Mauritanie et la voie qui mène à l'Algérie. Et donc, l'armée malienne, en partant vers ce camp, a été attaqué. Nous avons été les premiers à être attaqués. L'armée malienne a été le premier à être attaquée. La première à être attaquée par, la SEMA. La SEMA, aujourd'hui, affilée au groupe terroriste, le JNIM, qui fait partie d'Al-Qaïda. Et donc, il faut souligner cet aspect. Et donc, à la suite de ça, il y a eu des discussions.
Vous avez des preuves que la SEMA est en lien avec le JNIM?
Alors, quand vous voyez les différentes communications. Même tout à l'heure, avant d'arriver, on aura appris tout à l'heure que le triple communicateur, c'est-à-dire le chargé de communication de ces triples, c'est-à-dire CSP, SEMA et JSIM, a été attaqué par le service de renseignement algérien. On ne sait pas vérifier, mais c'est à vérifier. Et donc, toutes les preuves montrent aujourd'hui que la SEMA est affiliée au groupe terroriste qui est pur, qui est, comme on appelle, affilié au JSIM, qui est le groupe de Yad Agali, Jamaat Nasr al-Muslim al-Muslimin au Mali. Donc, c'est très clair. On a toutes les preuves. Quand on regarde les médias, on voit ces preuves-là. C'est même pas discuté.
Ngolo Adjara, quelle analyse faites-vous de l'avancée de l'armée malienne vers Kidal?
Oui, c'était prévisible. Vraiment, bonsoir, chers co-débatteurs. Bonsoir pour l'invitation. Une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie. Et un grand bonsoir et félicitations à l'hiérarchie militaire. Et c'était prévisible avec le départ de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Vous savez, c'est très clair, hein, c'est qu'à un moment donné, c'est des groupes armés qui se sont vraiment fabriqués dans une partie, quelque part dans des régions parisiennes, constituées un mouvement séparatiste, mouvement national de libération de la Dawat. Ils attaquent le pays en 2012 au nom du droit de peuple à l'autodétermination, alors demandant 800 000 km² du territoire avec Gao comme capitale et que cet État, entre guillemets, serait l'État de la Dawat. Donc il a fallu vraiment beaucoup de temps pour l'État de se préparer et arriver à ce niveau. Alors de Gao, maintenant vers... en effet, il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, il y a eu une configuration de groupes armés séparatistes constitués de Mouvement National de Libération de la Dawat, de Haut Conseil pour l'Unicité de la Dawat, Mouvement pour les Saluts de la Dawat, Mouvement Populaire pour les Saluts de la Dawat, Coalition des Peuples pour la Dawat, Mouvement Arabe de la Dawat, Groupe d'autodéfense des Touaregs, Imgad et leurs alliés ont été appelés par un monsieur qui est au CNT, Moussa Ak Achara Toumane, leur demande à s'associer pour créer un grand groupe qui s'appelle Cadre Stratégique Permanent, se donner la main pour sécuriser vraiment les territoires. Et en ce moment, donc, quand même, il faut quand même reconnaître que c'est ces groupes-là, composés-là, qui sont en train d'attaquer le combat de l'armée régulière de Gao à Anéfis. L'armée est dans sa mission, c'est pour
beaucoup
vraiment.
Beaucoup de adhérents se sont retirés de ce groupe, notamment dit. FSD.
Oui, évidemment, monsieur CSP. Je me suis vraiment intéressé à ce conflit armé malien qui est extrêmement très complexe, parce que c'était vraiment un devoir pour moi d'y faire. En thèse de doctorat, j'ai écrit 465 pages sur ce conflit et aujourd'hui, j'ai fait 10 articles dans des revues, dans des grandes revues de l'économie internationale. Et pour cela, et le dernier même vient de sortir il n'y a même pas longtemps de cela. Et c'était prévisible et c'est stratégique. Ces mouvements armés, c'est stratégique de leur part. Et c'est MSA, un mouvement pour le salut de la Dawat de Moussa Ak Achara Toumane. D'ailleurs, c'est lui le cerveau, celui qui a créé CSP. Alors, quand c'est arrivé, Al-Gabbas a fait de communiquer pour dire que bon, l'attaque de bateau, etc., c'est l'armée du CSP qui est en train de faire ça. Et c'est stratégique pour lui, en tant que fondateur du mouvement, de créer, de faire de communiquer, c'est désolariser pour brouiller effectivement la situation au gouvernement, parce que ça fait partie des aptitudes des rebelles. Alors donc, ils créent des situations. L'objectif, c'est le durcissement de l'État, c'est mettre fin à l'État au nom vraiment de la création de l'État de la Dawat. Bon, c'est communiqué. Nous, on peut l'analyser. À partir du moment où tu te donnes l'ambition de créer un État, de prendre les armes contre l'État, ça, c'est le premier terroriste d'abord, c'est le terrorisme contre l'État. Et d'ailleurs, à un moment donné, le gouvernement n'a pas su faire évidemment la qualification qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. En sciences politiques, une fois qu'on prend des armes contre l'État et demander la séparation, c'est le premier acte terroriste contre l'État qui doit être combattu. Mais le Mali n'avait vraiment pas compris, soit par médiocrité, soit par question de trouver la paix d'une manière, bon, mais en réalité, ces genres de conflits armés ne se négocient pas. Une fois que vous négociez avec les séparatistes, vous négociez pour la séparation de votre État. Et le cas de Casamance, j'ai été au Sénégal, j'ai parcouru, j'ai été à Casamance, j'ai demandé évidemment à comprendre. Et un séparatiste de Casamance, c'est un terroriste. Il y a également les cas de Polisario chez les Marocains. Ça, d'office, vraiment, c'est un acte terroriste. Et évidemment, il y a eu les cas de Biafra. Et pour les Nigérians, vraiment, c'est un acte terroriste. Ils n'ont pas accepté. Mais pourquoi le Mali fait ça? Mais aujourd'hui, en réalité, je pense que les cercles des officiers ont compris effectivement la chose et essayé vraiment d'aller à la reconquête de ces territoires. C'est clair, c'est pas pour dire qu'ils sont avec d'autres groupes qui réclament l'application des charas autre chose, c'est des terroristes et que l'État doit les combattre dans ce sens-là. Alors si cela n'est pas fait, et si l'État part dans ce sens, négocier autre chose, l'État est en train de les
nous
accorder.
Nous allons parler plus tard des négociations à venir. Nassim Dabou, en quoi la prise d'Anéfis est-elle importante pour l'armée malienne?
Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Et je salue aussi mes chers aînés qui sont avec moi. Et ce que moi j'ai envie de dire, il faut que les Maliens comprennent une chose. la prise d'Anéfis est significative pour l'armée malienne parce que c'est un territoire qui n'est pas loin de la cible. Et la cible, c'est Kidal. Et une fois que vous êtes à un tel endroit, il y a déjà un vent qui souffle, comme quoi on n'est pas loin de l'objectif. Et ce que les gens oublient, il faut que les Maliens comprennent, mes aînés ont parlé un peu de la configuration du conflit et ce qui s'est passé ici et là. Moi, ce que moi j'ai envie d'ajouter, c'est qu'il n'y a pas d'élévation sans prise de risque. Et plus le combat est grand, et plus la victoire est immense. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut une bonne stratégie, parce qu'on pense déjà qu'on est à Kidal. On n'est pas à Kidal pour le moment. C'est le contour. Maintenant, il faut bien mettre en place une bonne stratégie pour qu'on puisse rentrer à Kidal. Et une fois qu'on rentre à Kidal, comment faire pour pouvoir montrer toute notre puissance et qu'il n'y ait pas d'autres exactions que nous sommes en train de combattre aujourd'hui? Parce que ça, c'est la grande question. Pour moi, la prise de Kidal dépendra de la stratégie en place. Et depuis 2020, j'ose espérer que l'État a beaucoup réfléchi sur comment prendre Kidal. Parce qu'on a pris combien d'années? Je peux dire trois ans de réflexion pour prendre une région, ce n'est pas pour rien. Donc, quelle est la stratégie en place? Quelle est la synchronisation qu'ils veulent établir pour que ça soit efficace entre l'armée de terre et l'armée de l'air? Ce qui nous manquait auparavant, c'était l'armée de l'air. Parce que l'armée de terre aussi avait des problèmes comme le manque d'informations sur le plan logistique et tout. Aujourd'hui, on pense que cela est réglé. Donc, il faut une bonne synchronisation entre l'armée de terre et l'armée de l'air et une compréhension de la géographie même de Kidal pour savoir, avec des éléments de l'intérieur, où est-ce qu'on peut partir et où est-ce qu'on ne peut pas partir. Et aussi, avoir un bon accord solide avec les Algériens. Parce que quand ces éléments-là vont vouloir prendre la fuite ou quand ils vont prendre la fuite, ils vont aller vers où? Et quand ils iront là-bas, qu'est-ce que nous allons faire pour stopper ces mêmes éléments, pour que le conflit ne puisse se relancer des années après? Parce que tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là une bonne fois pour toutes, on va toujours revenir 15 ans après, 20 ans après, 30 ans après, comme ça a été le cas. Et moi, je le précise, la guerre est une déception. Mais quand elle est imposée à une nation, il faut la faire de la meilleure des manières pour que nous puissions passer à autre chose comme il faut.
Donc vous estimez que la prise de Kidal a été imaginée, a été analysée depuis 2020?
Ça, c'est ce que j'ai dit. J'ose espérer. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut le faire avant d'attaquer, avant de rentrer à Kidal. Parce que rentrer à Kidal n'est pas la victoire. Être dans les contours, ce n'est pas la victoire. La victoire, c'est quoi? C'est rentrer dedans et enlever les menaces et mettre les drapeaux pour dire le Mali, c'est pour nous, au vu et au su de tous. Parce que quand vous partez sur les autres réseaux, je vais citer une chaîne que je n'aime pas citer, bien sûr, pour des raisons, France 24. C'est quand ça ne va pas chez nous, ils publient. Mais quand ça va, ils ne vont jamais chanter nos exploits. Donc, nous aussi, on doit être dans une guerre d'information. La guerre d'information, nous sommes dans une guerre d'information. Ce n'est pas seulement avec les armes. Il faut donner la bonne information. Il faut requinquer le moral de nos troupes. Il faut soutenir nos troupes. Il faut être positif. Et aussi, il faut beaucoup respecter notre armée. Le respect et la considération. Parce que souvent, on a l'impression qu'avec certaines critiques, que les gens pensent que c'est un combat qui est facile. Ils pensent que non, on doit passer à telle ou telle chose. On est dans une guerre. On est en guerre. Il faut d'abord régler ces problèmes-là pour pouvoir aller sur d'autres horizons, je pense.
Mohamed Abdellahi El Khalil, cette prise d'Anéfis peut-elle changer la force, le rapport de force entre l'armée malienne et les rebelles?
Je pense que, comme a dit le grand frère, moi je ne parle plus de rebelles, il faut parler sincèrement des terroristes, parce que l'État malien est terrorisé aujourd'hui. On a nos tantes, nos sœurs et nos petites sœurs, nos enfants qui ne parviennent pas à aller à l'école à cause de ces bandits armés, des groupes terroristes et narcotrafiquants, et que l'État doit les combattre. Mais moi, je voulais ajouter un point avant d'aborder votre question. C'est la question de la stratégie militaire, en fait. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, sur le plan militaire, le Mali est un pays puissant. sur le plan militaire. On est en question d'armement aujourd'hui. On peut dire qu'on a des armes militaires pour faire ce combat. Et d'ailleurs, pour faire d'autres combats, qu'Allah nous en préserve. Mais pour attaquer Kidal, je pense que la meilleure stratégie, c'est de bien s'implanter d'abord en Éphèse, que ça ne soit pas seulement un simple communiqué. Bravo à l'armée malienne, c'est très bien. Mais qu'on soit bien implanté à Éphèse et de s'orienter également vers deux coins qui sont Tessalit et Agueloc, qui sont, comme on appelle, au nord de Kidal. Et donc, en ce moment, on peut aller en trio pour vraiment la voie terrestre et également la voie aérienne, sans autant faire de division de sang. Et je pense qu'en ce moment, ils vont se désarmer, ils vont eux-mêmes déposer les armes pour vraiment attendre l'armée malienne. Ça peut être une stratégie. Mais il faut aussi la communication, parce que moi, je vois sur les réseaux sociaux comme si certaines personnes sont contre l'État malien, sont contre la victoire de l'armée malienne, alors que ce sont des Maliens qui vivent ici à Bamako, qui vivent à Ségou, qui vivent à Mopti, dans certaines régions. Non, cette victoire de l'armée malienne n'est pas pour le colonel Assimi Goïta, son excellence, ni pour M. N'Golo Diarra, ni pour moi, c'est pour tout le Mali. Si c'est une défaite qu'Allah nous en préserve, ce sera la défaite du Mali. Et donc, nous devons se serrer les ceintures en disant que nous sommes un seul homme, une seule patrie, et nous devons aller forcément à la conquête de cette portion du Mali. Et on ne doit jamais, jamais, jamais aller aux négociations. Moi, je l'ai dit depuis 2015, j'ai écrit 25 articles par rapport à cette question de l'accord d'Alger et par rapport à la question du Sahel. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais négocier avec les troupes. Je vous dirai pourquoi ? Parce qu'on négocie avec les terroristes sur quelle base ? Moi, je me demande. J'ai échangé avec des...
Comme je l'ai dit, nous allons parler de la négociation plus tard. Pourquoi l'insoumission de Kidal exaspère ?
Oui, parce qu'il n'y a pas eu de vision claire. Moi, je pense bien depuis avant l'arrivée de la transition jusqu'à aujourd'hui, ou bien peu avant aujourd'hui, il n'y a pas eu de vision claire. Comment faisons-nous ? Comment attaquons Kidal ? Comment s'accaparer de Kidal ? Comment désarmer ces bandits armés et narcotrafiquants de Kidal ? C'est ça la vraie problématique. Je pense qu'aujourd'hui, on a une réponse, pas une réponse totale, mais je pense qu'on a une réponse totale, une réponse partielle à cette question.
D'accord. Cette situation de Kidal exaspère, notamment l'insoumission de Kidal. Pourquoi, selon vous ?
Oui, effectivement, c'est normal, parce que là, déjà, la guerre, c'est pas que des armes. La guerre aussi, elle est aussi intellectuelle. Vous savez, quand le mouvement national de libération de l'Azawad voyait le jour, quel est le droit qui a été avancé ? Le droit de paix par l'autodétermination. Ce droit a deux conditions. Et pour avoir au moins le statut de mouvement de libération, il faut contrôler une partie du territoire que vous réclamez. Ça, c'est les règles du droit international, du droit de paix pour l'autodétermination. Mais dans ces cas pareils du Mali, les mouvements séparatistes ne doivent pas être bénéficiaires du droit de paix pour l'autodétermination. Et ça, c'est technique, quoi. Si vous voulez qu'on parte sur le plan technique, je vais vous en parler. Mais il faut que je crois qu'il y a une partie des intellectuels aussi qui nous écoutent. Alors, le droit de paix par l'autodétermination s'était accordé par les Nations Unies aux États qui cherchaient à avoir leur indépendance vis-à-vis des colonisateurs. Mais une fois que le Mali est indépendant, depuis 1960, le Mali est membre de l'Organisation des Nations Unies, SACTI. Aucune séparation encore. Alors, mais la chose a été préparée dans ce sens. Vous l'avez vu, au moment de la reconquête des territoires, quand on a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal, et on a donné Kidal au mouvement séparatiste, c'était pour accorder ces territoires-là. À partir de ces territoires qu'il contrôle, il peut d'abord, il doit avoir des militaires qui ont l'uniforme, et il doit avoir un commandement, des éléments politiques, c'est pourquoi vous avez vu Bilal Akcherif, président, Djiri Mondou Maïga est décédé, supposé d'être ministre des Affaires étrangères, porte-parole aujourd'hui, il est dans le gouvernement. C'était des choses qui étaient préparées comme ça et ils ont eu des moyens militaires. Et ils ont Kidal. Et ils vont tout faire pour ne pas perdre Kidal. Et ils vont tout faire pour empêcher l'armée malienne de rentrer à Kidal. Alors, la guerre a pris d'autres dimensions. Et le droit de peuple à l'autodétermination, dans ces cas aussi, les territoires qu'il réclame, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la représentabilité. Et c'est ce qui manquait. Bravo à la jeunesse de Gao et bravo à cette population de Menaka, de Gao, de Kidal, qui ont résisté à l'oppression. Alors, donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, je vais inviter au CNT, quand l'armée rentrer, de se présenter là-bas et rencontrer ces populations, échanger avec eux. L'idéologie séparatiste qui a été enseignée, qui a été inculquée dans leurs idées, les aider voilà, à se déradiquer dans ce sens-là. Donc Kidal, c'est comme ça. La position de Kidal, c'est pour représenter que nous contrôlons une partie du territoire que nous réclamons. Alors, trouver ce territoire, c'est vital pour l'État malien, pour montrer en réalité et sa suprématie sur l'intégrité territoriale en la matière.
La CEMA dit avoir replié de Hanefis pour, selon, sous l'ordre de ses responsables de Kidal, pour éviter, dit-elle, des dégâts collatéraux contre les civils. Et quelle appréciation faites-vous de cette déclaration de la CEMA?
Évidemment, c'est stratégique parce qu'on appelle ça aptitude des rebelles. C'est vraiment stratégique. Il faut faire un retrait. Et vous l'avez vu, il arrive parfois souvent que l'armée malienne, dans les temps, faisait des exploits. Mais à la grande surprise, ils vont avoir des renforts venus de partout. On ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi ce conflit aussi doit être bien diagnostiqué et que la dimension militaire est là. C'est mieux, il faut que vraiment les diplomates aussi travaillent beaucoup. Et aujourd'hui, c'est des gens qui savent bien communiquer. Ils savent bien communiquer. Bon, nous négligeons un peu les choses. Alors, c'est quoi? Et dans leur communiqué, on va dire que l'armée malienne et ses supplétifs, Wagner, l'armée malienne et les Russes sont en train de venir vers nous. Et tout ça, c'est pour faire sorte de plaidoyer à la communauté internationale pour dire que si vous ne faites pas quelque chose, alors l'armée malienne et ceci vont, voilà, exterminer toute une population. C'est pourquoi ils disent qu'on a quitté, etc., etc. Donc c'est vraiment stratégique et nos diplomates doivent aussi beaucoup travailler sur la question. J'apprécie les discours du président à Saint-Pétersbourg lorsqu'il a montré que le Mali est prêt à coopérer avec tout le monde à condition qu'on respecte l'intégrité, le respect de l'État malien. Et c'est quand même capital. Et vous verrez également partout où les Russes font des exploits et vous verrez que l'Amérique se positionne en contradiction contre ceci. Donc il faut avoir la phobie, il faut avoir l'œil sur Washington par rapport à ce qui pourrait vraiment se passer. Et surtout, nous demandons également à nos diplomates de travailler parce que 4 de nos officiers sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Il faut travailler dans la diplomatie souterraine pour vraiment trouver une solution à cela et essayer de reconsidérer effectivement des partenaires qui peuvent être récupérés et pour essayer de faire en sorte que le projet que l'Azawad, les éléments de l'Azawad porte, je sais, en ce que je sais, l'Union africaine n'a pas reconnu le mouvement, n'a pas reconnu l'Azawad et la CEDAW n'a vraiment pas connu également l'Azawad. C'est pourquoi nous devons aussi travailler pour le retour effectif de l'État malien dans le concert des nations dans ce sens.
Assim, le maillage sécuritaire est-il possible dans cette zone, notamment dans la zone de Kidal?
Je pense parce que lorsque nous sommes en guerre, il faut toujours avoir une stratégie de communication qui est positive par rapport à ce que nous voulons voir se produire. Donc moi, je pense que c'est possible, mais ça dépendra de la stratégie. Je l'ai dit et je le répète, et nous sommes dans une guerre de communication. Il faut savoir communiquer, il faut savoir donner la bonne information et faire aussi attention à qui reçoit l'information et comment. Parce que ces deux aspects, c'est important. C'est très important.
Comment donnez-vous selon l'information qu'il faut?
Et moi, d'abord, il faut que ceux qui sont déjà en train de combattre sachent que ça avance. OK? Et sur le terrain aussi, il faut préparer les esprits. Parce que la meilleure façon de reconquérir un territoire, c'est aussi, on doit passer d'abord pour une meilleure reconquête d'un territoire. Il faut reconquérir d'abord les esprits. Parce que tant que les esprits ne sont pas avec vous, vous ne pouvez pas reconquérir un territoire. Ce n'est pas possible. Maintenant, ceux qui sont à Kidal, une fois que l'armée va rentrer, quel sera le soutien de la population vis-à-vis de l'armée? Quelle sera la résistance de la population vis-à-vis de l'armée? Donc pour cela, pour pouvoir analyser ça, il faut d'abord faire une étude sur la conception de la population par rapport à l'armée malienne. Parce que tant qu'on n'a pas fait cette étude-là, tout est à base d'études. On sait que nous avons des alliés à l'intérieur. Mais si cette population de Kidal résiste à l'armée malienne, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que nous partons reconquérir un territoire pour qu'on puisse vivre en harmonie et en paix. Et si on voit que les civils ripostent, ce n'est pas une bonne nouvelle. On part pour reconquérir le territoire pour les civils. Donc il faut qu'il y ait le soutien aussi des civils. Et quel travail se passe en amont pour qu'il y ait cet accueil-là. Je pense que c'est positif en faveur de l'État, mais il faut travailler dessus. Comme ça, nous allons avoir une reconquête, je ne dirais pas facile, ça sera un défi à relever, mais nous allons pouvoir le faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont sous une pression psychologique qui fait qu'ils sont obligés de soutenir ces personnes-là sans pour autant être d'accord avec ce qu'ils font. Mais une fois qu'ils seront sûrs que l'armée va prendre les choses en main, il se pourrait qu'ils vont pouvoir se reconvertir de façon psychologique et pouvoir aider l'État. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ces deux éléments-là. La communication. Tant que la communication n'est pas effective...
Ces derniers jours, on voit que l'armée a abandonné notamment le communiqué écrit. On voit des communiqués visuels. Est-ce que ce changement pourrait apporter un peu plus une valeur ajoutée à ce que vous dites?
Oui, c'est une valeur ajoutée parce que c'est toujours la communication. Je pense que notre communication est meilleure aujourd'hui qu'auparavant. C'est meilleur, même avec nos diplomates. Et mon cher aîné N'Golo a touché ce point. C'est très, très important. Parce que ces gens-là, ils se jouent d'un côté informationnel qui va à leur avantage. Quand ils citent Wagner seulement, les États-Unis, les éléments, Joe Biden est prêt à tout faire pour dire que non, ils vont porter atteinte à l'intégrité d'un peuple ou de la population, ils vont essayer de porter secours à ces gens-là. Donc nous aussi, on doit jouer la carte de la reconquête du territoire. Et c'est ce qu'Assimi fait. Et les trois principes fondamentaux qu'il met en place partout où il va, ça pèse. Ça pèse et c'est positif, non seulement pour le moral de nos troupes, mais aussi pour nos intellectuels et aussi nos leaders qui voyagent à travers le monde. Et je pense que ça va dans l'ensemble.
Selon le colonel Souleymane Dembélé, ce processus engagé le 2 octobre dernier a pour objectif de rétablir l'ordre, la sécurité et la stabilité dans toutes les ex-zones d'implantation de l'aménagement et sur l'ensemble du territoire national, suivant sa réaction.
C'est au cours de l'exécution de cette deuxième phase que nos forces ont, les 4, 5 et 6 octobre dernier, réduit jour après jour les résistances des groupes terroristes visant à barrer la route à la conduite de cette mission régalienne. Nonobstant cette perfidie, les forces armées maliennes ont pris tôt, 7 octobre 2023, le contrôle total de la localité d'Anéfis et environ, tout en mettant en débandade ces groupes armés terroristes. L'objectif étant de rétablir l'ordre, la sécurité et la stabilité dans toutes les ex-zones d'implantation de l'aménagement et sur l'ensemble du territoire national. Aux populations des zones concernées, les forces armées maliennes comprennent que ces opérations militaires puissent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi elles tiennent à rassurer l'ensemble des populations que toutes les mesures sont prises pour leur assurer paix et protection. Comprenez que votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité absolue.
Mohamed, cet appel de l'armée malienne peut-il être entendu par les populations dans ces zones-là?
Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Parce que nous sommes suivis de près. Ils savent, à chaque minute, la télévision malienne est suivie par la population quenelloise et également par les membres de la CEMA. Mais le point que je souhaiterais ajouter à ça, vous savez, les camps, l'enjeu autour des camps, comme on appelle des régions du Nord, est symbolique pour l'armée malienne. Et c'est à souligner, c'est un point très essentiel. Et également, si nous regardons les statistiques par rapport à la CEMA, on n'a aucune statistique crédible qui peuvent nous permettre d'évaluer l'effectif, c'est-à-dire des éléments de la CEMA. Ça, c'est très important. Parce qu'au moment de l'intégration des ex-combattants, on a compris que souvent, ils ont menti pour vraiment donner un effectif qui n'est pas crédible. Et également, tout en cachant les stocks, le moment de désarmement, tout en cachant beaucoup de stocks d'armes. Et également, cette région de Kidal est réputée être vraiment une région où le trafic d'armes venu de la Libye est très influent. Donc, cet élément est très important. Cette façon de communiquer est à saluer, est à encourager. Et nous ne souhaitons pas que ce soit uniquement hier et avant-hier, mais nous voulons que chaque soir, que l'armée malienne ouvre une fenêtre au niveau de l'URTM pour parler à la population. Parce qu'on a aussi d'autres, vous m'excusez du terme, soi-disant analystes ou défenseurs de l'armée, mais en réalité, ils sont en train d'enfoncer, c'est-à-dire mettre dos à dos l'armée et la population, parce que la communication militaire, la communication sécuritaire aussi est une spécialité. On ne peut pas communiquer sur le plan sécuritaire comme ça. Quand vous entendez M. Ngolo tout à l'heure, on sent qu'il est dans son plaintre, c'est-à-dire qu'il est dans son bain, c'est-à-dire de grande connaissance du droit international. Il essaie d'expliquer, de décortiquer. Voilà, on ne peut pas s'asseoir seulement devant les écrans de l'armée, carton, l'armée. Non, il faut comment rafraîchir le cerveau et le mémoire de la population. Il faut leur dire que nous sommes avec vous, c'est pour le bien du Mali. Parce que ce qui est mon inquiétude aujourd'hui, quand cette région du nord du Mali, qui est Kidal, n'est pas sous le contrôle de l'État malien, aujourd'hui, avant cette guerre-là, on a compris quelque chose. On a vu que tout de suite, comme je l'ai dit au début, la SEMA s'est affilée à Jnim. Ça, c'est pas à cacher, je l'ai dit, je le répète, on a toutes les preuves. Et aujourd'hui, Jnim aussi a ses propres alliés, qui aussi n'ont pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire que Jnim est également que la SEMA. Et alors, si demain, Kidal n'est plus sous le contrôle de l'État malien, quelle sera cette zone-là? Ce ne sera pas fugir d'Afghanistan. Est-ce que les gens ne vont pas s'entretuer? Est-ce qu'il n'y aura pas des avions qui vont entrer avec la drogue ou avec des armes pour vraiment conquérir encore Bamako? Donc, il est temps d'aller à la reconquête de Kidal. C'est urgent.
Est-ce à dire que l'armée va récupérer de gré ou de force les emprises de Tessalit, Agelhok et Kidal?
Oui, mais l'armée est condamnée de le faire. L'armée est obligée de le faire. Ils sont dans leur plein droit. Ils doivent le faire.
Que faut-il pour sécuriser en tout cas les zones récupérées par l'armée malienne?
Oui, tout d'abord, permettez-moi, vous avez montré la réaction de mon ami, de mon cousin, Souleymane Dembélé. Je connais bien l'homme, j'ai fait beaucoup d'activités avec lui. C'est un homme vraiment qui a beaucoup de sens et qui se bat. Et là, permettez-moi vraiment de remercier l'hiérarchie militaire. J'ai rencontré le 16 août 2021 le ministre de la Défense. On a échangé. Et de lui à moi, à ses hommes, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ses hommes. Il nous disait qu'il ferait tout pour que le militaire, en réalité, de son vivant, même après lui, que ses familles ne souffrent pas. Le chef d'état-major des armées aussi, nous avons eu à faire des ateliers, magazine spécial des armées ensemble. Et lui, son combat, en réalité, c'est de recouvrir l'intégrité territoriale. Et rien ne pourrait l'arrêter. Ça, vraiment, permettez-moi de témoigner ça. Il n'y a pas un lien particulier entre nous, c'est les liens de recherche, les liens de la recherche des solutions, l'appel qui vient juste de lancer à ces populations. Et la population est au centre. Quand on faisait un magazine spécial des armées ensemble, c'était pour parler de la montée en puissance des armées et qu'est-ce que le peuple peut faire, et que cette armée est déterminée pour protéger les populations et ce qui est leur bien. Donc c'est vraiment ça, de la volonté, c'est vraiment la détermination. Le ministre, j'ai su que vraiment c'est quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant dans ces choses-là.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, quand l'armée s'approche d'une zone, on voit des populations qui quittent la zone suite à l'appel de ces groupes armés.
Oui, évidemment, ces groupes armés ont leur façon de communiquer. Ils créent réellement
Ils ont plus d'influence sur la population que l'armée malienne.
Pas d'influence, parce que le terrain là est très très difficile. J'ai connu le terrain pendant 4 ans de recherche. C'est un terrain très difficile. Le territoire, ce n'est pas du tout facile. Et on fait face à une situation de géopolitique extrêmement compliquée. Il y a de l'embouteillage sur le terrain. Mais en tout cas, il faut quand même rappeler que le territoire est très immense et que les travaux sont en cours pour recruter, équiper et former. On a même allé vers le système de SNJ, c'est des volontaires, et bon, on est en train de l'expérimenter. On est en train aussi de parler des réservistes. Donc nous sommes tous des futurs réservistes, n'est-ce pas, les petits-fils de Sonia Liber. Je sais bien que ce qui est en train de se faire peut marcher, et puis on pourra vraiment recouvrir l'ensemble du territoire.
Je l'avais posé à un moment donné. Que faut-il pour sécuriser, en tout cas, les zones récupérées par l'armée et rétablir l'ordre et la quiétude?
Les travaux sont en cours. Vous avez vu qu'il y a eu vraiment des décrets, des dispositifs qui ont été faits pour militariser la police. Et les recrutements sont en cours. Et on pense, l'armée pense bien de cela. Et je vous dis, quand on a demandé le départ de l'aménagement, des mesures nécessaires ont été prises pour arriver à couvrir les territoires effectivement qui seront récupérés.
Mais par rapport à ces points, excusez-moi, je pense que aussi les stratégies qui sont en cours sont très bonnes, mais aussi il faut penser à créer ces liens de confiance entre la population et l'armée. C'est très très important à travers certaines activités qui peuvent exister dans la communauté pour vraiment créer ce lien, que l'armée, la population comprenne et sache que l'armée, ce sont nos frères, nos sœurs, et qu'ils sont là pour nous, et nous devons les protéger comme ils doivent nous protéger.
J'ai échangé effectivement avec tous les chefs d'état-major des armées en la matière, et même les différentes directions, et la direction des services sociaux des armées. Il y a des évolutions à ce niveau, et j'ai lancé un appel tout de suite au CND, et surtout l'honorable Foussine, voilà, je lance un appel pour que là où l'armée rentre, qui arrive à faire des missions pour rencontrer vraiment des populations et échanger avec eux, ça c'est la mission civile qui peut relever vraiment effectivement de bonne volonté des éléments du CND.
Assim, l'armée fait face à deux fronts, notamment la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les ex-rebelles. Comment dissocier ces deux catégories-là?
Et je pense que lors d'une autre... Il y a eu une émission ici où j'ai parlé sur cet aspect-là. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aller au cas par cas. C'est-à-dire, lorsque la guerre va chauffer à un certain niveau, il y a certaines personnes ou certains groupes qui vont vouloir se rétracter et qui vont vouloir négocier. Puisque nous le savons tous, la guerre est une déception... À un moment donné, moi, je ne parle pas de négociation. Je parle de reconfiguration. Il faut reconfigurer les choses. Parce que même après la prise de Kidal, il y aura des choses qu'on va se dire. Tous ceux qui sont à Kidal ne sont pas des terroristes. Il faut le dire. Il faut l'entendre. Et il faut le comprendre. Et tous les terroristes, il y a certains terroristes qui sont sous emprise. Et ceux qui vont jeter les armes, comment on va faire? Et ceux qui vont vouloir négocier à la fin, comment on va faire? Est-ce qu'on va liquider tout le monde? Donc, dès maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Ceux qui vont vouloir coopérer avec l'armée, on doit avoir une stratégie pour eux. Ceux qui vont vouloir s'entêter et continuer la lutte jusqu'à ce que mort s'ensuit, on va essayer de voir leur cas aussi, comme il le faut. Mais il ne faut pas dire que non, on y va, et c'est la guerre à ciel ouvert, on essaie de tuer. Non, ça ne marche pas. Parce que cela va nous... donner, cela va nous amener d'autres problèmes encore.
De prendre des armes contre un pays et puis s'attendre à une négociation, à un dialogue.
Moi, ce que je vous dis, je le répète une dernière fois. Pour reconquérir un territoire, il faut d'abord reconquérir les esprits. C'est très, très important. Parce que certaines personnes, dès maintenant, en sachant que l'État est proche de Kidal, ils vont se reconvertir. Ils n'ont pas de tri. Ils n'ont pas d'habits qui montrent que c'est des militaires ou c'est des... Non. Ils peuvent se reconvertir à tout moment et être des civils comme tout le monde et ne plus prendre d'armes. Qui va localiser ces personnes-là? Non. Ils vont vivre parmi la population et faire comme si de rien n'était, peut-être pour mieux se préparer. Donc, pour ne pas faire face à ces choses-là, il faut rétablir, comme ça a été dit, un lien de confiance entre la population et l'armée. Comme ça, même ceux qui vont se reconvertir, on va savoir qui ils étaient pour pouvoir mieux attaquer. Et cela ne se fera jamais avec les armes, mais avec le système KGB que j'ai déjà prôné ici. C'est des infiltrés.
Mohamed, peut-on s'attendre à une reprise du dialogue entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation?
Oui, comme vous savez, le Mali est un cas spécifique. Aujourd'hui, moi, je peux tout de suite, autour de cette table, me taquiner, monsieur Diarra, le traité de mon fils, alors qu'il est plus âgé que moi. C'est le cousinage. Moi qui vous parle, ici, c'est parce que j'ai des beaux-frères. J'ai des tontons au sein de la SEMA, et c'est peut-être que vous aussi. C'est toujours comme ça sur le Mali, mais est-ce que nous voulons qu'on tue tout ce monde-là? Non. Nous avons toujours prôné le dialogue avec des gens, c'est-à-dire qui ont l'idéologie d'un Mali unifié, d'un Mali indivisible. Ça, c'est possible. Et avec le respect de la Constitution malienne. Mais des gens qui veulent coûte que coûte imposer la charia, je l'ai dit ici, je le répète, je suis un grand défenseur de la religion islamique, qui me connaissent, et je ne dis pas non à la charia, mais la charia avec qui? Et comment? La charia ne s'impose pas. La charia, ça s'adhère. On n'impose pas la charia à une communauté. Et ce que les barbares et les terroristes, narcotrafiquants, les Amadou Koufa, Yadagali sont en train de faire aux populations maliennes, c'est terrible, c'est condamnable. Et donc, aujourd'hui, on peut aller aux négociations, mais avec qui? C'est ce que j'ai dit depuis le début de l'émission. Il faut négocier avec qui? Et quelle sera la suite de cette négociation? Parce qu'on a, il a dit, on a devant nous des groupes d'homogènes qu'on ne connaît pas, des gens qui sont, c'est-à-dire des salafistes intégristes, des gens qui sont vraiment des séparatistes, uniquement des séparatistes. Il y a aussi des gens qui vraiment bavardent parce qu'ils voient qu'il y a une injustice sociale au Mali et qu'il faut lutter contre cette injustice sociale-là. Moi, je peux comprendre leur cas. Et on peut discuter avec ces gens, ce sont nos beaux-frères, nos sœurs, nos frères. On peut discuter avec eux, les ramener, à, comme on appelle, à la raison et aller voir certaines dispositions de l'accord d'Alger pour les appliquer, c'est-à-dire le financement des projets de développement durable, etc., etc. Cela est possible. Mais quelle sera la suite de cet accord? Parce qu'on a vu, il y a eu plusieurs négociations. Mais après, ça n'a pas marché. C'est pour cela, autour de cette table aussi, je vais lancer un cri de cœur. Vraiment, il faut revoir l'équipe de négociation. Il faut passer à la jeunesse dans ce cas. Il faut donner le temps à cette jeunesse-là d'être impliquée dans les négociations. C'est très, très important. Parce que nous avons beaucoup de jeunes, vraiment, dans cette situation, qui ont pris les armes sans vraiment faire exprès. Et ils se sont retrouvés dans cette histoire.
Dans cette situation, comment rétablir la confiance entre les parties signataires?
Non, je pense qu'au Mali, sans vous mentir, je pense que les gens se font confiance. Les gens, dans les deux cas ou dans tous les camps, les gens se font confiance. Les gens, parce que tout le monde sait qui veut quoi, en réalité. Nous, nous ne voulons pas autre chose. L'armée malienne veut juste, le recouvrement de son territoire national. Et que veut la CEMA? C'est l'Azawad. Et est-ce que l'Azawad est possible? Est-ce que la population même qui existe dans cette zone qu'ils appellent Azawad, est-ce que la population même adhère à cette philosophie? Est-ce que la population veut être séparée du Mali au même moment où sa propre fille est mariée ici à Bamako, à Ségou et à Kaye? C'est difficile.
La reprise des négociations avec ces groupes armés qui ont pris les armes contre les forces armées maliennes est-elle possible?
Bon, depuis un certain temps, je travaille sur la dossier. Vous savez, j'ai créé un groupe de réflexion, la Coalition nationale pour la libération totale du Mali. On fait beaucoup de réflexions. C'est dans ce contexte qu'on va vers l'hiérarchie militaire, qu'on apporte notre contribution dans ce sens. Nous n'avons jamais demandé, depuis Amadou Toumani Touré, à un chef d'État de négocier avec des individus qui ont pris des armes pour demander la séparation. Non, ça ne se fait pas. Et aucun État. Or, ça ne se fait pas. Si, quand vous demandez à faire la négociation avec un séparatiste, c'est pour dire que vous êtes en train de l'aider, vous êtes en train de négocier, évidemment, la séparation.
Vous êtes en train de montrer votre faiblesse?
Pas seulement la faiblesse, vous êtes en train de travailler avec eux pour diviser votre pays. C'est comme ça que Khartoum est resté jusqu'à ce que Khartoum a perdu Djouba. Maintenant, le Maroc s'est battu, jusqu'à présent le combat est là, le Sénégal s'est battu, le Sénégal est là, mais en réalité, le Mali était resté. Vous savez, nous avons deux types de conflits armés, les conflits armés non internationaux, et les conflits armés internationaux, de telle sorte qu'on est resté dans les négociations jusqu'à ce que le conflit avait pris une dimension internationale. L'internationalisation d'un conflit armé se fait par l'intervention des Nations Unies dans le conflit ou encore l'intervention d'un État tiers.
Et maintenant, le combat. Le Mali doit continuer avec cette dynamique relancée, notamment la récupération du territoire avec les armes.
Ah, ça, il faut le faire ou bien il faut périr. En tout cas, nous ne conseillons pas, on ne va pas jamais conseiller à un chef d'État malien de négocier avec des individus qui ont pris des armes pour demander la séparation du pays.
Quel deviendra l'accord de paix pour la paix?
Vous savez, je vais vous dire, l'accord de paix, ça n'a pas de valeur juridique. Ça, il faut quand même connaître. Ça, c'est le droit. Ça n'a pas de valeur juridique. Leur application, c'est le principe de bonne foi. Mais à un moment donné, le Mali est allé en faisant une résolution en 2017 pour demander à ce que l'accord soit placé sur chapitre 7. Et ça, c'était une erreur diplomatique qui devrait être corrigée. Alors donc, ces genres d'accords n'ont pas de valeur juridique. C'est le principe de bonne foi. Et si le Mali s'entête de retourner à la négociation, le Mali n'a plus droit à l'erreur.
Ngolo ne souhaite pas que les autorités négocient avec ce groupe azarmi. Est-ce que vous partagez cette idée?
Moi, je pense que je vais recadrer les choses. Moi, je ne parle pas de négociation dans ce sens-là. Moi, je suis dans après la conquête de Kidal. Une fois que nous allons avoir Kidal, il y aura des individus qui seront là-bas. Est-ce que tous ces individus-là seront considérés comme des terroristes? Non, on va composer avec ces éléments-là. Parce que j'ai dit, imaginez un élément de Kidal aujourd'hui qui est contre l'armée et du jour au lendemain, il décide de laisser les armes. L'armée n'est pas au courant. Il se met dans la population. D'accord. Qui va le savoir? Personne.
D'accord. Malheureusement, on me fait signe que nous n'avons plus de temps. Ainsi se referme à ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'armée malienne à la reconquête de l'intégrité territoriale. Et nous étions avec trois invités. Mohamed Abdoulahi El Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Docteur Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Assim Dabo, enseignant-chercheur et analyste politique. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kilomega avec une coordination de Mariam Meiga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.